Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 5 septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia. Tout d'abord les titres. Tchad, la junte lève le siège du parti d'opposition, les transformateurs à N'Djamena, et libère des manifestants. Au Burkina Faso, le président de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, fait le bilan de la crise sécuritaire que vit le pays. D'autre part, les juntes du Burkina et du Mali ont décidé de renforcer leur partenariat militaire. Au Kenya, William Ruto, déclaré vainqueur de la présidentielle du 9 août, promet de respecter le verdict de la Cour suprême attendu ce lundi. Les Britanniques devraient savoir aujourd'hui qui va succéder au Premier ministre Boris Johnson à Downing Street. La chef de la diplomatie, Liz Truss, est la grande favorite. Au Canada, des attaques au couteau dans des communautés indigènes font 10 morts. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, la junte militaire a levé dimanche le siège du parti d'opposition Les Transformateurs qui boycotte un dialogue de réconciliation nationale. Elle a également annoncé la remise en liberté de dizaines de ses militants arrêtés depuis 4 jours, Rosine Monizero.
Le siège du parti Les Transformateurs à N'Djamena était encerclé par la police et l'armée depuis jeudi et au moins 84 de ses jeunes militants, selon la police, 279 selon le mouvement, avaient été arrêtés depuis 4 jours pour manifestations interdites et troubles à l'ordre public. Le ministre de la Sécurité publique, Idriss Dokoni Adiker, a annoncé hier par téléphone à l'AFP, tard dans la soirée, « Toutes les personnes arrêtées ont été libérées ce soir et regagneront leur domicile demain matin pour des raisons de sécurité et le siège du domicile de Succès Masra, le président des transformateurs, a été levé. Le domicile du jeune leader de l'opposition est également le siège de son parti. La levée du siège et le retour promis ce lundi matin des militants arrêtés ont été confirmés à l'AFP par Masra Dolombaye, vice-président des transformateurs, parti membre de Wakid Tama. Cette coalition de la majorité des mouvements de l'opposition et des organisations de la société civile est opposée aux militaires au pouvoir et boycotte le dialogue national inclusif et souverain de N'Djamena.
Vous aurez rectifié de vous-même, il s'agissait de Nanik Talani et non pas de Rosine Munezero. Au Burkina Faso, le président Paul-Henri Damiba s'est adressé à la nation. Monsieur Damiba, pour lui, il s'agissait de faire le bilan de 5 mois de la crise sécuritaire que vit le pays. Et pour le président du Faso, il y a eu des victoires et des avancées dans ce bilan à mi-parcours. Des actions offensives ont été menées et plusieurs chefs terroristes locaux ont été neutralisés. Le président Damiba a réagi depuis Dori dans le Sahel burkinabé, propos recueillis par notre correspondant dans le pays, Lamine Traoré.
Plongé il y a quelques mois dans un état de découragement et de démoralisation avancée, nos forces se sont remobilisées. L'intensification des actions offensives, conduites souvent en coordination avec les VDP, ont visé surtout à désorganiser le dispositif ennemi. Sur le plan purement opérationnel, cet objectif-là est atteint. L'acquisition de nouveaux équipements et le renforcement de nos capacités techniques nous permettent aujourd'hui de délivrer des feux avec une précision et un effet de surprise que nous n'avions pas auparavant. Dans une tentative désespérée de se réorganiser, les terroristes procèdent désormais par groupuscules misant sur des actions d'éclat comme la destruction d'infrastructures, les menaces ou les attaques contre les populations pour maintenir l'illusion qu'ils gagnent du terrain. Les actions offensives évoquées ont été rendues possibles grâce à l'amélioration du dispositif de renseignement plus précis, plus réactif et plus flexible. Cela a considérablement affiné les opérations de ciblage qui ont permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes locaux.
Le président de la transition burkinabé, Paul-Henri Damiba. Par ailleurs, les dirigeants des juntes au pouvoir au Burkina et au Mali ont décidé hier de renforcer leur partenariat militaire, ont indiqué par communiqué séparé les présidences maliennes et burkinabé Claire Morin-Gibourg.
Nous entendons, dans les jours à venir, mieux examiner et renforcer le partenariat militaire qui existe entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples, sont confrontés, a indiqué le président burkinabé. Un communiqué a rencontré à Bamako son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, pour une visite de travail et d'amitié de quelques heures. Il s'agit du premier déplacement à l'étranger du chef de la junte burkinabé. Le Burkina Faso et le Mali partagent une frontière de plus d'un millier de kilomètres, une zone touchée par de nombreuses attaques meurtrières de groupes djihadistes. Mi-mai, le Mali avait décidé de se retirer du G5 Sahel, invoquant une perte d'autonomie et une instrumentalisation au sein de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. Monsieur Damiba est attendu en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où il doit s'entretenir avec le président Alassane Ouattara.
Un casque bleu a été gravement blessé dimanche lors d'une attaque ciblée contre un convoi de l'ONU dans le nord du Mali, en proie à des troubles. C'est ce qu'a annoncé sur Twitter la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Une mine a explosé dans la région de Gao au passage du convoi qui s'est ensuite retrouvé sous le feu d'armes légères. Ferme condamnation de cette attaque et vœux de rétablissement aux blessés, ajoute la MINUSMA dans son tweet. En Guinée, la junte militaire, dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, célèbre aujourd'hui sa première année au pouvoir. Alpha Fria Barry, membre fondateur du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, interdit par la junte, a confié à VOA que le mouvement devrait marquer cette journée avec des protestations parce que la junte n'a pas tenu ses promesses, a-t-il dit. Le 5 septembre 2021, le colonel Doumbouya avait déclaré avoir renversé le gouvernement de l'ex-président Alpha Condé en raison de sa corruption endémique, de son piètre bilan en matière de droits de l'homme et de la mauvaise gestion de l'économie. Au Kenya, William Ruto, déclaré vainqueur de la présidentielle du 9 août, a annoncé hier qu'il respecterait la décision de la Cour suprême attendue ce lundi, confirmant ou invalidant les résultats du scrutin contesté par son rival Raila Odinga, Michel Joseph.
Parce que nous sommes un pays qui respecte la loi, nous respecterons également la décision du tribunal, a déclaré William Ruto, vice-président sortant après un culte dominical dans la ville de Nakuru. Élu avec environ 233 000 voix d'avance, William Ruto avait devancé la figure historique de l'opposition Raila Odinga, soutenu cette année par le président sortant Uhuru Kenyatta et son parti Jubilee. Mais M. Odinga a dénoncé des fraudes et saisi la Cour suprême. Il affirme notamment que les serveurs de la Commission électorale indépendante ont été piratés pour y introduire des résultats falsifiés et qu'environ 140 000 votes n'ont pas été comptabilisés. La colistière de Raila Odinga, Martha Karua, a assuré vendredi que la coalition pro-Odinga respecterait elle aussi la décision de lundi. Lors de la dernière présidentielle de 2017, la Cour suprême, saisie par Raila Odinga, avait annulé l'élection et ordonné la tenue d'un nouveau scrutin, une première en Afrique.
L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffane de Mistura, s'est entretenu dimanche avec le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, à Tindouf, en Algérie, dans un camp de réfugiés sahraouis. C'est dans le cadre de sa deuxième tournée régionale, a indiqué l'APS, l'agence de presse algérienne. Le Sahara occidental, ex-colonie espagnole, considérée comme un territoire non autonome par l'ONU, oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenu par Alger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Royaume-Uni, la grande favorite pour succéder à Boris Johnson à Downing Street, Liz Truss, a promis hier d'agir immédiatement face à la crise du coût de la vie dans le pays, refusant toutefois de détailler son projet à la veille de l'annonce des résultats. De nouveau, Claire Morin-Gibourg.
Je vais agir, si je suis élue première ministre, je vais agir immédiatement sur les factures et l'offre d'énergie, car je pense que ça va de pair, a déclaré Liz Truss sur les ondes de la BBC, la radio publique britannique. Sauf coup de théâtre, la chef de la diplomatie de 47 ans devrait devenir ce lundi la nouvelle première ministre du Royaume-Uni, succédant à Boris Johnson, poussée à la démission début juillet après des mois de scandale. Avec une inflation qui dépasse les 10% et une hausse exorbitante des factures d'énergie qui menacent les familles, les services publics et les entreprises, la situation économique et sociale est explosive en Grande-Bretagne. Après 3 mois d'une campagne marquée très à droite, Liz Truss a séduit en promettant des baisses d'impôts massives, tandis que son rival Rishi Sunak a prôné un réalisme économique loin des contes de fées. L'annonce du Premier ministre est prévue aujourd'hui à 11h30, temps universel.
Au Canada, au moins 10 personnes ont été tuées, une quinzaine blessées lors d'attaques à l'arme blanche dimanche dans 2 localités isolées du pays, dont une à forte population indigène. C'est ce qu'a indiqué la police qui a lancé une chasse à l'homme pour retrouver 2 suspects. Les autorités trouvent qu'il est trop tôt pour aborder le mobile de ces attaques. Un Palestinien de 19 ans a été tué lundi par un tir israélien près de Jenin, secteur du nord de la Cisjordanie, au cœur d'affrontements ces derniers mois, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Un séisme de magnitude 6,6 a frappé lundi le Sichuan, une province montagneuse du sud-ouest de la Chine, régulièrement touchée par des tremblements de terre, a annoncé l'Institut d'études géologiques des États-Unis. En Afghanistan, au moins 6 personnes ont été tuées et 9 blessées dans un tremblement de terre survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans l'est du pays. La Minute Éco, Mohamedou Houmpa.
Au Cameroun, la plateforme des producteurs de farine locale table sur une production de 5 millions de tonnes à l'horizon 2030. Une telle production devrait permettre au pays de se départir des importations massives de blé dont les coûts pâtissent actuellement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui sont les premiers fournisseurs mondiaux. En Côte d'Ivoire, les prix de l'essence et du gasoil sont maintenus respectivement à 735 et 615 francs CFA le litre sur la période du 1er au 30 septembre, selon une note du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie rendue publique jeudi. Ces prix du carburant sont restés inchangés depuis le mois précédent, malgré la volatilité des cours internationaux. Le gouvernement a accordé une subvention d'environ 500 milliards de francs CFA depuis le début de l'année, pour stabiliser les prix du carburant dans le pays. Au Maroc, le secteur touristique connaît une nette embellie depuis le mois de mai. Entre les mois de mai et juillet, le pays a dépassé les 4 millions d'arrivées, soit une hausse de 1% par rapport à la même période en 2019. Cet afflux de touristes, explique Jeune Afrique, est essentiellement porté par les Marocains résidant à l'étranger qui retrouvent le rythme d'un retour estival au pays après 2 années difficiles marquées par la pandémie de Covid-19.
Merci Mohamedou. Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Du football à la une et on connaît tous les qualifiés pour le CHAN de 2023 en Algérie.
Oui, une compétition réservée, faut-il le rappeler, aux joueurs évoluant sur le continent. Et Madagascar y sera pour la première fois après avoir écarté le Botswana. Ça passe aussi pour le Mozambique. Suite à son nul 0-0 devant le Malawi, pareil pour l'Angola, 2 fois vainqueur de l'Afrique du Sud. Au centre, le Congo se qualifie aux dépens de la Centrafrique, tout comme la RDC qui a dominé le Tchad 2-0 et 5-0. Et puis, le Cameroun renverse la Guinée équatoriale 2-0. Enfin, à l'Est, on note la qualification du Soudan, de l'Éthiopie et de l'Ouganda.
À l'ouest, le Sénégal sera aussi en Algérie.
Tout à fait. Après avoir réussi à éliminer enfin sa bête noire, la Guinée, au tir au but, d'où la satisfaction de son entraîneur Pape Thiaw au micro d'Amédine Sy.
Très, très, très fier. Bon, on sait que la Guinée nous a empêché 3 fois d'aller à ce champ, mais cette fois-ci, c'est nous qui partons. Et surtout, on mérite parce que les joueurs nous l'ont montré. À chaque fois, on nous dit, les Sénégalais, parfois mentalement, ça reste, ils savent jouer au football. Aujourd'hui, je pense qu'on a montré cette réputation de bien jouer au football et aussi mentalement quand même, si tu prends un but dès les premières minutes comme ça, face à une équipe qui faisait toujours des remontadas contre nous. Et les gamins, ils ont dû soutenir, garder ce score et dans le contenu du match, très bien en place, les meilleurs dans le jeu. Et aujourd'hui, aller au pénalty et bien tirer nos pénaltys, ça veut dire vraiment ce que les gens y pensaient, maintenant, c'est enlevé.
Parmi les autres qualifiés de cette zone, le Mali, qui a confirmé son premier succès en battant de nouveau la Sierra Leone 2-0. Pareil pour la Mauritanie, qui a aussi battu deux fois la Guinée-Bissau, et le Niger, vainqueur à Cotonou du Togo 3-1, après avoir perdu 1-0 à l'aller. Qualification également du Ghana, mais au tir au but face au Nigeria et de la Côte d'Ivoire, toujours au tir au but 5-3 au Burkina Faso. Le tirage au sort de la composition des groupes est prévu pour le 1er octobre prochain. Ce 7e CHAN aura lieu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023.
Handball à présent avec la CAN masculine des moins de 20 ans au Rwanda.
Oui, et on connaît l'affiche de la finale. Le pays hôte fera face à l'Égypte dans un match âprement disputé. Le Rwanda s'est défait in extremis du Maroc 35-34 pour affronter demain mardi l'Égypte qui a facilement disposé du Burundi 66-22. À noter que ces quatre formations représenteront l'Afrique au mondial de la catégorie en Croatie l'an prochain.
Cyclisme pour terminer avec le retour du Tour de Côte d'Ivoire.
Après 3 ans d'absence, le Grand Tour est de retour. La première étape, courue entre Korogo et Fankese-Goudou, longue de 128,5 km, a été remportée par Paul Demont. Le Burkinabé devance l'Ivoirien Abou Sanogo et le Français Noël Roger. 8 étapes à parcourir jusqu'à l'arrivée finale à Abidjan dimanche prochain.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, plusieurs personnes et groupes qui participaient au dialogue national inclusif et souverain ont claqué la porte. Après les 11 ordres professionnels, dont celui des avocats, le clergé catholique vient de geler sa participation à ce qu'il a qualifié de campagne électorale et non de dialogue inclusif. André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Faisant partie du groupe des sages qui mène la médiation avec les partisans du boycott de cette messe politique, l'Église catholique constate qu'au fur et à mesure que les négociations avancent, le caractère inclusif et souverain de ce dialogue s'effrite.
Nous avons l'impression d'assister à une campagne électorale avec d'un côté ceux qui soutiennent le changement et de l'autre ceux qui bloquent tout et veulent continuer comme avant en mettant en place une machine savamment orchestrée.
L'évêque de Doba, Mgr Martin Wenge Bani, il informe par la suite qu'il est contradictoire pour les pasteurs de continuer à siéger dans ces conditions de non-transparence.
C'est pour cela que nous sommes contraints de suspendre notre participation aux séances pour ne pas cautionner la mainmise d'un groupe sur le processus de ce dialogue.
Le premier vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdeldaïm Abdoulaye Ousmane, estime que les évêques vont revenir à de meilleurs sentiments.
Peut-être qu'ils sont un peu mécontents de ce qu'ils ont vu dans la salle. En tant que religieux, nous souhaitons que nos frères regagnent la salle, continuent les dialogues avec les autres, parce que les discussions n'ont pas commencé. Le Tchad a organisé ces dialogues pour cesser ce qu'on appelle guerre ou violence.
Le collectif des associations de défense des droits de l'homme et les organisations de la société civile représentées à ce dialogue, à leur tour, menacent de quitter le dialogue ce lundi. Dans la salle samedi, à la reprise des travaux, le président du présidium, Kali Ngoutegata, n'a pas été tendre avec les journalistes.
Je demande aux journalistes de quitter la salle.
L'Union des journalistes tchadiens qualifie ses propos de mépris et une insulte aux hommes des médias et exige de Kali Ngoutegata des excuses aux journalistes pour ses propos imprudents. Et à ce rythme d'expulsion des journalistes, certains groupes armés qui font la politique de la chaise vide, puis avec tous ces départs et reports successifs depuis le 20 août, on ne sait toujours pas de quoi demain sera fait. S'agira-t-il d'un dialogue ou d'un monologue? Nous aurons les réponses dans les prochaines heures. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le président Paul-Henri Damiba s'est adressé hier à la nation pour faire le bilan de 5 mois de la crise sécuritaire. Selon lui, il y a eu des avancées, mais certaines organisations de la société civile estiment qu'il n'y a rien eu de concret ces 5 derniers mois. D'autres pensent que les choses ont bougé. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
C'est depuis Douri, la capitale du Sahel, une des régions les plus touchées par le terrorisme, que le président Paul-Henri Damiba a tenu cette adresse à la nation.
L'intensification des actions offensives, conduites souvent en coordination avec les VDP, ont visé surtout à désorganiser le dispositif ennemi. Sur le plan purement opérationnel, cet objectif-là est atteint. L'acquisition de nouveaux équipements et le renforcement de nos capacités techniques nous permettent aujourd'hui de délivrer des feux avec une précision et un effet de surprise que nous n'avions pas auparavant.
Malgré tout, les choses ne bougent pas, selon Serge Bayala, acteur de la société civile.
On retient qu'il a plutôt fait le choix de la dérision, un détour vers l'histoire, que d'affronter les faits des 5 mois qui viennent de s'écouler. Et on a compris expressement que n'ayant pas quelque chose à main, à proposer comme acte de résultat concret, il a préféré la dérision, il a préféré fantasmer, plutôt produire un récit d'intention, un procès acerbe contre les politiciens, sauf que ce même procès acerbe doit être adressé aux militaires qui semblent être au cœur ou à compétition égale du chaos que notre pays vit avec les hommes politiques.
Alpha Yago, responsable d'un mouvement soutenant les actions de la transition, est plutôt satisfait de ses discours.
Il a fait un discours empreint donc de solennité et un discours empreint donc de sincérité. Ce discours transmet également une volonté de communier avec son peuple. Un diagnostic sans complaisance de la situation, de l'état dans lequel il est venu trouver le pays. L'attitude de l'armée aujourd'hui est tout à fait différente de avant le 24 janvier. C'est une armée qui a le moral plus haut dans l'ensemble, un discours donc positif, un discours bien amené et un discours de sincérité et d'honnêteté. Et qui montre quelqu'un qui est épris donc de justice et de paix pour son pays et est discours d'un vrai patriote.
Paul-Henri Damiba a annoncé son intention de poursuivre et intensifier les actions militaires afin de réduire au maximum les capacités de nuisance de l'ennemi. Les nouveaux équipements militaires déjà acquis ou d'autres en cours d'acquisition permettront de restreindre de façon décisive la liberté de manœuvre des groupes armés qui refusent toujours, selon lui, la main tendue de la nation. Il a annoncé des réformes majeures dans l'administration et la coopération, rassure que les alliances seront portées vers des options qui garantissent le respect de l'indépendance du pays. Il était samedi à Bamako et doit se rendre aujourd'hui à Abidjan, ses premières sorties à l'étranger depuis sa prise du pouvoir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Affaire des 49 militaires ivoiriens détenus par les autorités maliennes, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, dont le pays fait la médiation dans cette crise, a annoncé samedi lors d'une conférence de presse à Lomé la libération de 3 militaires ivoiriens, des femmes, évoquant un geste humanitaire du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosu.
La médiation togolaise semble porter ses fruits avec la libération de ces 3 soldats. Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères du Togo, s'est réjoui du geste du président de la transition malienne, Assimi Goïta.
Je voudrais vous annoncer que le président de la transition, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté de procéder à la libération de certains prisonniers. Et le président de la République togolaise se réjouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer en guise d'un geste humanitaire 3 prisonniers sur les 49. Et les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté.
Avant cette annonce, le directeur du cabinet du président ivoirien a déploré les incompréhensions qui sont à l'origine de cette crise. Fidèle Sara Soro a indiqué que la Côte d'Ivoire s'engage à suivre désormais les prescriptions des Nations Unies et des nouvelles autorités de la transition malienne.
La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relative au déploiement des forces militaires au Mali.
Fidèle Sarasoro a ajouté qu'afin d'aplanir les divergences et de contribuer à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Les trois militaires ont été remis aux autorités ivoiriennes en présence de Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Ce dernier n'a fait aucune déclaration lors de la conférence de presse. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sedulia. À la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Farmer. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.